Je vais parler également en français, si vous permettez. Merci de m'avoir invité. Je vais essayer d'être bref. Il y a pas mal d'images à voir, mais on peut les voir assez rapidement. Ne vous tracassez pas pour le texte, ne lisez pas. D'abord, c'est en français. Si vous comprenez, c'est bien, mais il y a certains points simplement que je vais vous dire qui sont importants alors à retenir. En Belgique, nous avons connu pendant de nombreuses années pas mal de conflits, comme M. Morandini vous a dit tout à l'heure, entre les pompiers, les policiers, les ambulances et les services SAMU qui sont venus se greffer il y a une petite vingtaine d'années. Historiquement, voici ce qui s'est passé pour la Belgique. On remonte à une bataille, celle de Fleurus en 1794, qui fut gagnée par l'armée française contre les Prussiens, les Hollandais, les Autrichiens qui occupaient la Belgique. Donc nous sommes redevenus pour la xième fois français. Pourquoi parler de cette bataille? Et simplement pour dire qu'à ce moment, nous avons rebasculé sur un système français en l'occurrence, dont la législation, quelques années avant, avait donné énormément de pouvoirs et d'obligations au niveau des communes. Donc les communes, les villes, si vous voulez, avaient comme obligation de venir porter secours à ceux qui le nécessitaient. Et cette obligation communale d'apporter des secours est restée quasi telle quelle jusqu'en 1988. Petit rappel également dans l'historique des choses, 1792, Dominique Larrey, chirurgien de Napoléon, je vais dire presque invente une médicalisation des secours, en tout cas les débuts d'une médicalisation moderne des secours. L'indépendance de la Belgique, c'est en 1830. On est toujours sous le même type de loi. L'invention du téléphone est quand même une date clé en 1876. Et notre première loi relativement intelligente, je vais dire, concernant l'aide médicale urgente nationale, date de 1964. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un proche de la famille d'un ministre s'est retrouvé accidenté sur une route et la famille a découvert qu'en Belgique, il n'y avait pas de système pour porter secours rapidement aux victimes d'accidents. Le lendemain, on créait une loi. C'est toujours intéressant d'avoir un ministre ou un proche d'un ministre qui se fait accidenter ou qui est malade, ça fait évoluer la médecine. Voici en fait le texte de loi que je ne vais pas vous lire, rassurez-vous, mais où les mots importants vont apparaître. Aide médicale urgente, système unifié, et ça c'était quand même une première en Europe, d'avoir un numéro d'appel unique, toujours à charge des communes. La création d'un fonds d'aide médicale urgente, c'est-à-dire où on cotisait, si vous voulez, à un niveau national pour pouvoir payer les secours lorsque c'était nécessaire, sans devoir nécessairement demander à la victime de devoir débourser, ce qui n'était pas toujours faisable. Le premier numéro d'urgence à l'époque était le 900. Le dernier petit paragraphe rouge, en fait, était pour mettre en évidence le fait que, et c'est toujours le cas maintenant, il y a deux autorités qui ont, si vous voulez, les secours en charge. C'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé publique. Le ministère de l'Intérieur ayant en charge, au travers des communes, le fonctionnement du système d'appel unifié et le ministère de la Santé ayant les compétences dans l'aide médicale urgente à proprement parler. Donc, nous avions jusqu'il y a peu, beaucoup de numéros d'urgence. Nous les avons encore pour une période intermédiaire. Le 100 pour ce qui est ambulance, pompier et SAMU, mais tout ça régi par un call taker, un centraliste pompier. Le 101 pour la police, mais nous avons également le 103 pour l'écoute des enfants, le 105 pour l'aspect non urgent, mais transport ambulancier non urgent via la Croix-Rouge de Belgique, 107 téléaccueil pour les personnes qui ont différentes difficultés ou qui doivent être écoutées pour différentes raisons, 110 Child Focus qui a été récemment mis sur pied suite aux histoires que vous connaissez, qui ne font pas évidemment toute la brillance de mon pays avec le procès qui a lieu actuellement concernant les pédophiles. Notre numéro également, qui est celui du centre anti-poison, tout ça fait beaucoup de numéros, des numéros que l'on retrouve sur diverses brochures, par exemple ici d'une société vendant des produits pharmaceutiques, et on doit rappeler tous ces numéros régulièrement parce que tout simplement on a encore beaucoup d'appels qui sont mal dirigés, où les gens ne savent plus à quel numéro ils doivent appeler. Vous voyez au passage, ce sera la seconde partie de mon exposé, que de plus en plus on fait mention également d'une carte de santé individuelle, parce que ça peut nous aider grandement. Donc, tous ces numéros-là, auxquels vous pouvez encore rajouter, ne les lisez pas, je vous dis simplement, toute une série de numéros concernant les centres de brûlés, les accidents de plongée, les centres de médecine hyperbare, hein, les alcooliques anonymes, les services de secours en mer, même si on n'a pas grand accès à la mer, auxquels on peut encore rajouter différents autres numéros. Bref, tout cela devient vraiment très difficile. Ce 112 va, je crois, nous être d'une grande aide en essayant de n'avoir plus qu'un seul numéro, évidemment, à composer, qui pourra redispatcher vers le service adéquat. Et en fait, la nouveauté, eh bien, elle date de 3 semaines, c'est vraiment très frais. Donc en avril de cette année, le gouvernement est co-signé par les ministres de l'Intérieur et le ministre de la Santé publique, ont décidé, une fois pour toutes, de mettre fin à ces querelles qui voulaient que les pompiers essayent de garder un numéro de leur côté, les policiers du leur, etc. C'est dorénavant le 112 qui sera le numéro d'appel unique, en gardant néanmoins encore pendant quelques années les numéros 100 et 101 qui seront directement accessibles. Mais le système maintenant, qui en fait a déjà été mis sur pied au niveau de la police d'un point de vue technologique, va regrouper les différentes disciplines, aussi bien feu que médical que policier, avec un call taker qui sera en fait entraîné par Belgacom et par évidemment des instances officielles également. Call taker qui lui va vraiment servir de façon tout à fait neutre, sans aucune couleur, d'aucune discipline, à trier les appels, à donner éventuellement une certaine réponse, hein, simplement s'il se rend compte que les appels ne sont pas urgents, par exemple, ou très rapidement, et quand je dis rapidement, c'est évidemment en quelques secondes que ça doit se faire, pas en 2 heures, redispatcher vers ce qui est encore actuellement la centrale sans feu, ou la centrale sans médical, ou le centraliste 101, police et sécurité. Numéro accessoire du côté médical sera le 113, mais c'est le 112 qui va le dispatcher dessus pour ce qui est non urgent, et du côté policier, des services de renseignement avec un numéro gratuit qui sera le 0800 qui sera conseillé à l'appelant. Mais nous aurons aussi une barrière entre ce qui est policier à droite et ce qui est non policier que vous voyez du côté gauche. Néanmoins, l'État impose le système qui a été baptisé Astrid, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une même technologie. Et toutes ces personnes vont travailler aussi dans un même bâtiment, pas nécessairement dans un même local, mais dans un même bâtiment, hein, avec justement ce souci de séparer le secret policier et le secret médical au sens large du terme. Mais la technologie étant la même et les centralistes recevant un entraînement bien particulier, qu'ils n'ont pas pour le moment d'ailleurs, hein, pourront à certains moments, suivant certaines procédures, communiquer entre eux, évidemment, pour conjuguer leur dispatching et leurs efforts. C'est évident qu'en cas de catastrophe ou de crash sur une autoroute, on a besoin à la fois des policiers, des ambulanciers, de la composante feu et des systèmes SAMU avec les médecins. Alors, où se trouve la place des infirmiers et des infirmières dans le système? Et ça, c'est tout à fait récent et c'est probablement la chose la plus importante pour vous à retenir de cette première partie. c'est qu'au niveau central sang actuel, donc dans la composante médicale, ce sont des infirmiers, des infirmières et des médecins qui vont gérer les appels et aider au dispatching des secours. Et ce qui veut dire que c'est un peu une nouvelle profession, puisque jusque maintenant, pour être centraliste à ce niveau-là, c'était la même personne pour le feu et la santé. Ce centraliste avait comme seule obligation d'être un employé communal, un employé de la commune dans laquelle il travaillait. On lui demandait juste de savoir lire et écrire, même s'il n'était pas infirmier, sûrement pas, même s'il n'était pas un ancien ambulancier, même s'il n'était pas un ancien pompier, il pouvait très bien devenir centraliste au sang et recevoir des appels concernant des incendies, des explosions, des accidents ou des malades. Ce qui est assez hallucinant, puisqu'il n'avait aucune formation préalable et aucune formation n'était prévue non plus à partir du moment où il s'asseyait devant son pupitre et il commençait à travailler. Donc je dis bien zéro heure de formation. En fait, dans les dernières années, ils étaient demandeurs d'un minimum de formation et c'est bénévolement que diverses institutions leur ont donné quelques heures, mais c'était totalement insuffisant. Maintenant, avec la décision qui a été prise en avril 2004, non seulement on va se retrouver dans un même bâtiment, sur une même technologie numérique, mais en plus, nous aurons la garantie que aussi bien les call takers neutres qui vont intercepter toutes les communications 112 que les différents dispatchers des différentes disciplines vont recevoir une formation de haut niveau et adaptée. Le but de nos institutions, de nos autorités, étant d'arriver vraiment avec des secours très rapidement envoyés de façon adaptée sur les lieux du sinistre, et avec une médicalisation la plus précoce possible. Donc ici, vous voyez les interventions typiques avec une ambulance et un SMUR, un service mobile d'urgence réanimation, qui vient aider les ambulanciers. Un seul réseau de communication globale, qui est le réseau ASTRID, qui est sur la norme TETRA, et qui a déjà installé toutes ses antennes sur tout le pays. Alors l'avantage, c'est que technologiquement, ce sont des appareils qui sont nettement plus puissants, qui passent là où actuellement nos appareils de communication ne passent pas. Donc on a de meilleurs dialogues, mais également la numérisation permet un cryptage, alors que pour le moment, il est tout à fait possible, avec un scanner, d'écouter ce que la police raconte, ce que les ambulanciers racontent, etc. Là, ce ne sera plus possible, puisque toutes les conversations seront cryptées. L'avantage de la technologie TETRA, qui a été adoptée par l'Europe, et qui donc va être généralisée, c'est également que différents acteurs de différentes disciplines, ayant momentanément leur propre fréquence de transmission, s'ils arrivent sur les lieux d'un accident et qu'ils doivent gérer ensemble cet accident, pourront parler sur la même longueur d'onde, en ce sens que le dispatcher va leur attribuer aux médecins, aux infirmiers, aux ambulanciers, aux policiers, aux pompiers, momentanément la même longueur d'onde. Donc, on pourra vraiment se parler, ce qui pour le moment n'est pas tout à fait le cas. En plus, ces systèmes de télécommunication, non seulement passent là où les anciens systèmes ne passaient pas, on pourra passer sur les mêmes longueurs d'onde, mais même là où on ne peut pas passer par le système radiocommunication habituel, chaque appareil peut servir de talkie-walkie. Donc, même dans une cave, là où les radiocommunications ne passent pas, eh bien, le système va basculer et vous aurez quand même les gens qui sont sur le terrain qui pourront se parler. C'est ces mêmes appareils qui sont des genres de téléphones mobiles comme ceux que vous avez, un tout petit peu plus gros simplement, ont également un bouton rouge d'urgence en cas où le secouriste ou le pompier ou l'ambulancier ou l'infirmier seraient en difficulté, seraient menacés par exemple parce qu'ils arrivent en plein dans une bagarre de village, eh bien en appuyant sur ce bouton, non seulement on entendra à la centrale tout ce qui se passe, mais on saura exactement les localiser. Il leur suffit de pousser sur le bouton, d'abandonner l'appareil, et même s'ils sont menacés, prises d'otages, etc., on saura où ils sont et on saura ce qu'il se passe. Donc je vous ai dit que le réseau était crypté, c'est quand même une grande sécurité. Et tout cela est également enregistré, le but étant de pouvoir à terme faire une étude de ce qui s'est passé, les délais, etc. Enfin, l'appareil dont je vous parle, enfin les appareils, parce que c'est une norme, et aussi bien Nokia que Ericsson que Motorola en fabrique, permet également d'être utilisé comme un GSM habituel. Donc vous voyez, on dispose alors aussi des autres réseaux privés du pays, comme Proximus en Belgique, etc. Donc ce sont vraiment des appareils excessivement performants. Là, c'est un réel bond en avant pour l'aide médicale urgente. Tout à l'heure, on vous a parlé, nos amis américains, vous ont parlé dans la prise en charge d'un patient du continuum, évidemment, depuis le terrain jusqu'à l'hôpital. Et entre autres, c'était mentionné à plusieurs reprises, l'importance à un certain moment d'avoir l'historique des patients. Eh bien là, pour tous ceux qui sont intéressés par le triage, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui a été mis au point il y a 3 ans en Belgique, qui est une idée totalement originale, malgré les apparences, je peux vous garantir que c'est encore unique au monde, qui est un système de carte de santé individuelle. Alors vous allez me dire, ben non, ça existe depuis des années, etc. Pas ceci, vous allez comprendre pourquoi, en tout cas j'espère. Donc, dans les premières minutes de l'accueil d'un patient, le problème, si ce patient est dans le coma, s'il a un problème de langue, s'il est stressé, s'il a lui-même des problèmes de mémoire, c'est d'obtenir les premières informations. Or, ces informations vont conditionner la qualité et la rapidité du traitement du patient. Donc, grande question des premiers instants, et ça, on le connaît aussi bien en Italie qu'en Belgique, qu'en France ou qu'au Guatemala, comment communiquer valablement? Certains patients ont l'intelligence de placer dans leur portefeuille ou dans leur passeport un petit bout de papier sur lequel ils vont, comme vous voyez en haut à gauche, inscrire, parfois taper à la machine, et ici c'est du luxe, hein, les médicaments qu'ils prennent, leurs allergies, etc. Ça nous aide. Ceci est un papier réel que j'ai eu dans le portefeuille d'un patient. Bon, j'espère que c'était bien à lui, parce qu'on s'est quand même basé là-dessus, n'ayant pas d'autres informations, hein. Mais rien n'indique que le papier était à jour, hein. Le papier, il a fallu d'ailleurs le défroisser avant de pouvoir le lire, hein. Donc, c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est quand même sous condition. Parfois, vous avez des cartes comme par exemple, je suis diabétique, I am diabétique, hein, je suis épileptique, etc. Bon, ce sont des informations intéressantes. Il y a quelques années, une société qui fabriquait de la margarine distribuait gratuitement un petit dépliant, format 2 fois une carte d'identité belge, hein, donc 3 fois une carte Visa. Hein, sur lequel, mais uniquement en français, on pouvait indiquer ses allergies, ses vaccins, etc. C'était bien, mais ça n'a quasi jamais été utilisé. Pourquoi? Si vous le mettez dans votre portefeuille, après quelques mois, ça se décompose complètement. De toute façon, ce sera manuscrit, hein. C'est difficilement lisible, on ne sait pas bien le mettre à jour. Bon, enfin, ceux qui l'ont utilisé, eh bien, encore une fois, c'était de l'information, c'est quand même intéressant à prendre. En Belgique, nous avons un système national de cartes de santé, certains l'appellent carte de santé, mais elle n'est pas du tout de santé, qui, avec un chip intégré, permet simplement d'avoir l'identification du patient et son assurabilité, savoir si il est en ordre de cotisation à sa mutuelle, son assurance santé. Il n'y a pas de données médicales. Vous savez qu'en France, il y a une carte de ce type-là qui s'appelle Sésame Vital, qui, dans certains départements, comporte des données médicales. Mais comme ces données médicales sont confiées à une tierce personne, en l'occurrence le corps médical, les médecins, ces données doivent être cryptées. Pour pouvoir y accéder, il faut un lecteur particulier, il faut avoir l'autorisation du patient ou un des proches, etc. Enfin, selon mes collègues français dans la région de Toulouse, que j'ai encore vu il y a quelques semaines, ils me disent, le temps de l'utiliser, le patient, il est déjà 2 fois mort d'autre chose. D'où l'idée de rendre à César ce qui lui appartient, comme on dit, c'est-à-dire de rendre au patient la possibilité de s'exprimer, qu'il aille n'importe où dans le monde, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et que l'on puisse le comprendre dans la langue locale, qu'on puisse savoir qu'il est allergique, diabétique, qu'il y a une personne à contacter en cas de problème. Et on était confronté évidemment à cet éternel problème du secret professionnel, de la confidentialité des données, de la privacy. Et en fait, je pense que beaucoup qui ont inventé des systèmes qui pourraient être comparables ont tous pris le problème par le mauvais côté. C'est-à-dire avec chaque fois une officialisation des données par un médecin, etc. Ce qui veut dire que ces données, légalement, et c'est normal, doivent alors être cryptées, confidentielles, etc. Ce qui alourdit terriblement le système et les lois sur la privacy, sur la confidentialité des données, paradoxalement, en urgence, vont se retourner contre l'intérêt du patient. Parce que ça fait perdre un temps fou. De plus, nulle part au monde, vous ne pouvez dire actuellement que vous avez un dossier médical exhaustif, complet, multilingue, accessible 24 heures sur 24. En créant le Life Badge, la carte de santé Life Badge, nous avons voulu faire un système qui soit à 100% légal, à 100% déontologique, à 100% éthique, à 100% respectant les lois de la vie privée. Et une des bases du système, c'est de bien comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui soit autorisée de divulguer vos propres données de santé, c'est vous-même. Si aujourd'hui vous avez envie de publier dans un journal local votre histoire médicale, c'est votre droit le plus absolu. On ne peut pas vous le reprocher et on ne peut pas reprocher au journal que vous aurez payé pour mettre votre dossier de l'avoir mis dessus. Eh bien ici, la philosophie est un peu comparable et permet de façon totalement anonyme, je dis bien anonyme, c'était là un des challenges également, d'offrir aux gens la possibilité d'avoir, en fait, non plus un petit bout de papier à mettre dans leur portefeuille, mais d'avoir leur site internet. Donc, je dis bien d'avoir votre site internet, c'est-à-dire que là derrière, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de database. Le système est réellement anonyme. Ceux qui sont intéressés, je leur donnerai bien volontiers une petite carte tout à l'heure. Je ne sais pas si j'en aurai pour tout le monde, mais enfin. Cette carte, du format carte de crédit, dispose de 23 chiffres, là à la base, dont les 8 derniers sont cachés au moment où on distribue ou on vend la carte. Il y en a déjà plus de 2 millions dans le monde. Pourquoi des numéros cachés? Mais simplement pour justement celui qui vous offre ou qui vend cette carte-là ne puisse pas se dire, tiens, voilà les 23 chiffres, dans 15 jours j'irai voir votre dossier. On garde quand même un minimum de discrétion. Maintenant, l'utilisateur qui va acquérir une carte comme ça, donc acquiert en fait un site internet à part entière, mais plutôt que d'être un site avec une page blanche, eh bien, il va en fait avoir à sa disposition environ les 200 questions que tout médecin urgentiste aimerait avoir le temps de poser en cas d'urgence. Vous savez qu'on n'a jamais le temps de poser, évidemment, 200 questions. Et quand bien même on aurait le temps de les poser, il est exceptionnel en situation d'urgence pour les raisons de stress, etc., trop jeune, trop vieux, comateux, qu'on en ait les réponses. Je suis persuadé que dans votre métier, vous avez tous entendu des réponses, comme par exemple, est-ce que vous prenez des médicaments? Oui, mais je ne me souviens pas le nom, savez-vous. Est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Oui, mais je voudrais demander à mon médecin de famille. Problème, c'est qu'à 2h du matin, vous téléphonez au médecin de famille, c'est un répondeur automatique. Il faut attendre le lendemain ou bien le lundi pour avoir la réponse. C'est trop tard. Ici, donc, le patient va avoir la possibilité de mettre lui-même, et j'insiste, ça a été fait pour, de mettre lui-même toutes les réponses aux questions, toutes les informations qu'il aimerait pouvoir transmettre en cas d'urgence. Donc, vous voyez ici sur un premier chapitre des renseignements généraux. voilà, le numéro de téléphone de certaines personnes, etc., l'année de naissance. Et le système peut être laissé totalement anonyme. Vous voyez qu'il y a une case où on peut mettre ses initiales, mais on peut mettre son nom aussi si on le veut, mais vous pouvez laisser les cases tout à fait blanches. J'ai personnellement ma carte, donc ça veut dire que j'ai mon site internet. Ça veut dire que ici ou à Tokyo ou n'importe où, vous pouvez aller facilement le consulter si je vous donne les 23 chiffres. Si je ne vous donne pas les 23 chiffres, eh bien, j'offre, allez, un beau voyage de 15 jours à Hawaï à celui qui parviendra à trouver mon site. Donc, il y a plusieurs paragraphes, évidemment, plusieurs chapitres. Ici, c'est le chapitre des allergies. Et pour la plupart des questions, il suffit de cocher, simplement. C'est ce qui a permis, évidemment, de traduire en plusieurs langues, puisque seuls les intitulés, qui sont évidemment inamovibles, peuvent être traduits. Nous laissons néanmoins des rubriques à chaque chapitre où le patient peut mettre du texte libre, mais le texte restera dans la langue dans laquelle il l'a mis. C'est tout. Maintenant, vous pouvez mettre évidemment des informations en plusieurs langues, mais là, ce ne sera pas traduit. On ne prendra jamais le risque de faire de la traduction automatique de texte libre. Alors, les informations, elles, seront placées par le patient à qui on va demander d'inventer un mot de passe, et c'est avec ce mot de passe, qui lui ne figure pas sur la carte, qu'il pourra aller modifier ses données. Même 50 fois par jour s'il le veut, même quand il est en vacances aux îles Canaries, puisque une simple connexion à Internet suffit, il n'y a pas besoin de lecteur, hein, c'est une adresse Internet, et avec ce mot de passe, il peut aller faire les ajouts ou les suppressions ou les modifications qu'il le souhaite. En revanche, pour consulter le dossier, les 23 chiffres suffisent. C'est la raison pour laquelle, même si vous arrivez dans le coma, dans un service d'urgence, qu'on voit cette carte-là, en quelques secondes, sur n'importe quelle connexion à Internet, vous pouvez avoir accès en consultation, vous n'aurez pas modifié les données, mais en urgence, on n'en a pas besoin, hein, pour aller consulter les données du patient que vous avez sous les yeux. Donc, je vous laisse imaginer l'utilisation que vous pourriez en faire dans un système de triage hospitalier, quel qu'il soit. Alors là, je vais passer vraiment très rapidement maintenant sur les différents chapitres. Vous voyez, sur les antécédents médicaux, toxicomanie, la chirurgie, avec toujours des possibilités d'aller rajouter en texte libre des choses qui ne seraient pas dans les questions standards. Les traitements de longue durée, de savoir que quelqu'un est en radiothérapie, en chimiothérapie par exemple, tout ça est important. Les vaccins, grand classique. Les prothèses. Savoir si on accepte de recevoir du sang, de donner ses organes. Et n'importe quelle autre rubrique. Y compris, et ça devient quand même plus intéressant que le petit bout de papier, parce que c'est plus difficile à mettre dessus, vous pouvez très bien télécharger sur votre site votre dernière radiographie des poumons, votre dernier électrocardiogramme, les résultats de votre dernière prise de sang, votre dernière fracture de poignet, et le médecin qui va vous recevoir à Tokyo, en moins de 15 secondes, a accès à toutes vos données en japonais, et il pourra aussi voir en plein écran votre radio de poumon, votre électrocardiogramme, etc. Alors là, je suppose qu'en tant que professionnel, vous saisissez bien l'importance de pouvoir disposer aussi rapidement de données de base telles que celles-là pour pouvoir faire un comparatif avec les examens que vous allez faire en urgence. Oui, les professionnels auront probablement remarqué qu'il valait mieux ne pas avoir un électrocardiogramme comme ça, parce que c'était pré-mortem, celui-là. Évidemment, possibilité pour un médecin de ne pas devoir passer paragraphe par paragraphe, en une seule touche, il a accès à tout ce qui a été coché sur le dossier. Possibilité d'imprimer, évidemment, de changer le code secret, d'aller mettre des traitements, même 20 pages de traitement, si vous le souhaitez, dans la rubrique « Autres ». Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un traducteur automatique. Vous avez pour le moment la traduction en anglais. Donc c'est le même dossier, mais en anglais, en portugais, en japonais et d'autres. En turc, en russe. Toujours en russe, voilà, et il y a en italien, en espagnol castillan, en espagnol catalan, en portugais brésilien, en allemand, etc. Pour le moment, il y a 13 langues, mais suivant la demande, le système peut être traduit dans n'importe quelle langue, évidemment. Alors, l'évolution du système va permettre en fait de rajouter aussi des pathologies spéciales et, par exemple, de permettre à des diabétiques d'utiliser leur carte Life Badge comme ils utilisent leur petit carnet actuellement. Je suppose que c'est la même chose chez vous. Hein, les patients qui ont un diabète ont un carnet dans lequel ils inscrivent évidemment les doses utilisées, etc. Eh bien, ils peuvent utiliser leur carte Life Badge de la même façon. Ils peuvent, en cas de maladie rare, hein, on peut avoir une rubrique particulière aussi. Possibilité maintenant, grâce au PDF file, d'intégrer une photocopie de son dossier médical professionnel. C'est-à-dire que le patient peut demander une copie de son dossier médical professionnel qu'il va transformer en PDF et uploader, télécharger sur son site web. Ce qui veut dire que le système devient un système complet, puisque vous allez disposer à la fois de la dernière version du dossier de votre médecin de famille, en plus des questions auxquelles vous, vous allez répondre, parce que vous dites, ça, j'estime que c'est important qu'on le sache s'il m'arrive quelque chose. Hein? Alors ici, j'ai donné un exemple, on ne peut pas faire pire, c'est un papyrus égyptien, qui traitait néanmoins d'un traitement médical. Deuxième chose importante qui vient se rajouter, toujours pour le même prix, c'est ce qu'on appelle la Medibox, qui est en fait un système dans lequel un médecin ou un hôpital ou un laboratoire qui vous a fait une analyse de sang peut aller déposer, encore une fois, d'une façon anonyme et one-way uniquement, donc dans un sens, peut aller déposer dans votre boîte aux lettres des documents que vous allez décider d'intégrer dans la carte Life Badge ou de jeter. C'est vous qui choisissez, c'est le patient qui choisit. Voilà, alors j'accélère un petit peu pour vous dire que le système est accessible également par les technologies wireless, sans fil, par des GSM portables qui ont un accès soit WAP, soit GPRS ou UMTS, ce qui veut dire qu'avec un simple petit GSM, vous pouvez accéder même au milieu d'une autoroute, dans la campagne, à la maison du patient, hein, vous pouvez accéder en moins d'une minute à son dossier de santé. Et si votre mobile le permet, vous accédez également aux images, électrocardiogrammes, etc. Je n'ai une minute, ça va, hein? Donc l'amélioration, c'est de gagner du temps, de la qualité, d'éviter des examens inutiles ou redondants, et ça a un aspect de médecine préventive, parce que ceux qui acquièrent la carte ont tout un questionnaire, et fatalement, c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir, ah oui, tiens, c'est vrai, ma dernière vaccination date de quand, et ça a un aspect donc de médecine préventive. Voilà, sur le site internet, vous pourrez découvrir tout ce que je vous ai dit. Et pour terminer, ben ça c'est le dernier achat des autorités de la région Wallonne de Belgique, où le ministre a décidé d'offrir 60 000 cartes à tous les fonctionnaires de la région Wallonne et à leurs familles. Voilà, je vous remercie.